Interview.
2 jours.
Bonjour, toujours dans le cadre des rencontres de l'écologie, avec ce titre « Se relier, rêver, résister ». Face à moi, j'ai Juliette Duquesne. Bonjour.
Bonjour.
Juliette, bonjour. Vous êtes journaliste et autrice et vous nous parlerez de votre travail, notamment littéraire. Et à vos côtés, Claire Rousseau. Bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de l'atelier paysan, pareil, hein, vous nous expliquerez que ce qu'est cet atelier paysan. Et donc vous êtes toutes les deux à présenter une conférence ou peut-être un débat autour de cette notion d'alternative et résistance. Alors pour vous, qu'est-ce qui vous a incité à participer au sein de ces rencontres déjà? Est-ce que le titre « Se relier, rêver, résister » correspond ou du moins résonne en vous pour cette participation?
Oui, le titre c'est « Se relier, résister, rêver », c'est ça? Donc, oui, c'est un terme en tout cas qui résonne à travers mes différentes enquêtes. Moi, ma dernière enquête s'appelle « Autonome et solidaire pour le vivant, s'organiser sans l'autorité de l'État ». Et c'est vrai que parmi la période actuelle un peu difficile, moi j'ai été voir beaucoup de collectifs un peu partout en France et dans le monde qui œuvrent et qui essayent d'organiser leur autonomie autour des gestes de subsistance, même si c'est pas une autonomie totale, mais en tout cas qui gagnent en autonomie autour de ces gestes-là. Et je pense qu'en ce moment, encore plus dans la période actuelle, on a quand même besoin d'espoir et de trouver des façons de s'organiser différemment. Donc ça peut en tout cas faire des liens avec le titre qui sont les termes rêver, donc donner espoir en montrant que c'est possible de s'organiser autrement, aussi rêver et donc d'ouvrir nos imaginaires en essayant de s'organiser autrement et résister, parce que c'est sûr que c'est essentiel encore plus aujourd'hui de résister face au modèle dominant. Moi, c'est vrai que ma dernière enquête, mais surtout en avant des collectifs qui ont plutôt bien vu le lien entre État et capitalisme. Et c'est vrai qu'en France, on pense souvent que l'État peut contrer le capitalisme. Et moi, c'était de voir le lien entre État et capitaliste et de montrer que quand on a bien compris ces liens, on peut faire un pas de côté, essayer de s'organiser autrement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire complètement sans l'État, notamment dans un pays très centralisé comme la France, mais d'essayer de montrer que pour prendre soin du vivant, de se raccrocher autour des gestes de subsistance collectivement, c'est une possibilité pour s'organiser autrement. Et puis tout à l'heure, on va aussi beaucoup parler de l'agriculture et de l'alimentation. Et moi, c'est vrai que dans toutes mes enquêtes, depuis que je suis journaliste, depuis plus de 20 ans, je me rends compte du rôle essentiel de l'agriculture et de l'alimentation, du rôle structurant dans la société de ce secteur, et peut-être encore plus aujourd'hui avec tout ce qu'on voit par rapport à ce sujet.
Oui, et ben là, moi, je vais me limiter au monde agricole, puisque c'est là d'où je parle et d'où on parle avec l'atelier paysan. En fait, par rapport à ce thème-là, se relier, résister, rêver, avec l'accroissement du capitalisme, du néolibéralisme, l'industrialisation de l'agriculture, là on le voit aussi avec le Mercosur, avec les abattages totaux de la DNC. En fait, il y a une résister, c'est une question de survie pour beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices. En fait, là il y a plus le choix, et on le voit ces dernières années, ils ont été nombreux et nombreuses à se soulever. Il y a eu la crise agricole l'année dernière, plutôt en janvier. Puis là, c'est reparti avec les abattages totaux dus à la dermatose nodulaire contagieuse. Donc là, en fait, on voit que c'est vraiment un enjeu de... C'est une question de survie, en fait, de résister. Et après, se pose la question de... comment on résiste? Avec qui? Et c'est là où il y a un enjeu fondamental de se lier. Avec qui on fait alliance? Comment bien identifier nos ennemis, sortir des carcans identitaires que la bourgeoisie aime bien nous mettre, hein, de dire là il y a les agri-fachos d'un côté, là il y a les écolo-bobos. Donc enfin voilà, c'est tout un travail assez minutieux. Et voilà. Et puis en ces temps, comme l'a dit Juliette, il y a un enjeu aussi de trouver un peu d'espoir et de se mobiliser quoi.
Donc ce titre, Alternative et Résistance, au pluriel, hein, pour ces deux mots, ça veut dire divers aspects aussi d'alternative. Il y a celle du monde paysan, hein, qui combat aussi pour sa vie, sa vitalité, face donc à l'industrie, au capitalisme. Et les résistances, il faudra peut-être déterminer aussi quelles sont les alternatives et les résistances. Peut-être aussi décrire précisément quelles résistances, envers quoi. C'est un peu ce que vous allez aborder avec...
Alors moi je suis pas du tout forte en sémantique, donc et puis même pour donner des définitions très précises sur qu'est-ce qu'une alternative et qu'est-ce qu'une résistance. Bon bah vous me rassurez alors. Mais en tout cas nous côté Atelier Paysan on utilise beaucoup ce mot des alternatives pour dire que voilà, face à cette industrialisation de l'agriculture et de l'alimentation, se sont développées des alternatives. Et c'est des alternatives qui se sont développées depuis ça a commencé dans les années 60-70, hein, avec l'agriculture biologique, l'agroécologie, il y a eu Nature et Progrès, il y a Terre de Liens, il y a voilà, plein de choses, il y a les oasis, il y a voilà, plein de choses qui se sont créées et qui sont merveilleuses, et en fait qui ont prouvé que c'était possible de faire autrement que le modèle agro-industriel. Et après, nous aussi, on fait partie d'une alternative, l'Atelier Paysan. Et sauf que ce qu'on montre un peu dans notre essai politique, là, Reprendre la terre aux machines, c'est que on ne peut pas penser uniquement à l'échelle de l'alternative, parce que l'alternative à elle-même est insuffisante en fait pour opérer un changement radical, révolutionnaire du monde agricole et alimentaire. Et c'est un constat qui n'est pas facile à faire, hein, mais en fait, depuis 50 ans, il y a eu plein d'alternatives qui se sont développées, et elles augmentent, et elles sont fabuleuses, mais elles n'ont en rien fait diminuer l'industrialisation de l'agriculture. Et donc c'est en ça où il faut se dire, ok, en fait c'est génial, mais c'est pas suffisant. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire aussi avec ?
Comment expliquez-vous ça, justement, cette augmentation d'alternatives sans être considérée par l'industrie, et voire même les médias, on pourrait dire. Vous, Juliette, justement, vous avez opéré au sein de TF1, une chaîne généraliste qui est synonyme de capitalisme, on peut dire aussi. Donc vous avez pu aussi mettre le pied dans ce monde.
Oui, c'est vrai que moi, j'ai interrogé aussi l'Atelier Paysan pour mon ouvrage, et je partage le fait que les alternatives, ça existe, mais ce n'est pas suffisant, et qu'il faut aussi, ce que dit très bien l'Atelier Paysan, établir un rapport de force avec le modèle dominant. Et c'est vrai que les alternatives, on a montré que l'agroécologie paysanne peut nourrir la planète, hein, toutes les études le montrent, scientifiques et autres. Et pourtant, face à la puissance du lobby, alors moi, j'ai travaillé à TF1, donc j'ai travaillé dedans, et je faisais déjà, je sais que les gens me disent toujours, j'ai fait un grand écart, mais je traitais déjà de ces sujets-là à TF1, et j'ai bien sûr subi des pressions publicitaires à multiples reprises, notamment sur les sujets liés à l'agro-industrie avec Coca. Je suis même partie parce que j'ai un sujet avec Monsanto qui est sur les semences qui n'a pas été diffusé, et c'est pour ça que j'ai fait mon premier ouvrage avec Pierre Rabhi sur les semences à la suite d'un reportage qui n'a pas été diffusé. Donc je vois bien ce poids du lobby. Je pense que il y a plusieurs raisons, hein, pour lequel c'est aussi difficile de changer ce modèle, notamment le modèle agricole et alimentaire. Il y a le poids du lobby, comme je disais, que moi j'ai subi en tant que journaliste, mais qu'on voit à chaque fois les lois sont détricotées de leur contenu, ou encore plus avec la loi Duplomb, elles amplifient le système actuel, etc. Je pense aussi que le modèle agricole et alimentaire est tellement structurant dans la société que ce sujet-là est particulièrement difficile à modifier. On sait que si on veut veut changer le modèle agricole, il faudrait multiplier par deux le nombre de paysans. Et on ne peut pas faire du greenwashing sur ce sujet-là. On ne peut pas dire soit on construit une bassine, soit on ne la construit pas. On ne peut pas faire un entre-deux. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a autant de mal à modifier le modèle agricole et alimentaire. On oublie souvent que notre modèle de surconsommation très capitaliste, etc., où on consomme énormément, il arrive en France et il est arrivé dans les autres pays aussi, au moment où on vide les champs des paysans qui viennent dans les villes pour nourrir le système de surconsommation, et que c'est à chaque fois à ce moment-là qu'on fait une bascule. Et je pense que c'est pour ça que sur le sujet agricole et alimentaire, c'est aussi difficile de changer. Et on sait qu'il faut changer le modèle agricole, mais aussi le modèle alimentaire. On a bien vu que là, la bio avait augmenté. Mais comme tout le monde, en volume, 50% de la bio est achetée en grande surface. Quand il y a eu des baisses de prix, ça a fait pression sur les paysans. Il y en a même qui ont dû refaire des conversions dans l'autre sens et revenir agriculteur dans l'agriculture conventionnelle. Donc il me semble qu'il y a autant de blocages à cause du lobbying, mais aussi parce que c'est un sujet très structurant pour notre société, et que contrairement, si on compte que en émissions de gaz à effet de serre, on peut, entre guillemets, faire plus de greenwashing et pas aller au fond des sujets.
Vous êtes maintenant, vous êtes aussi journaliste pour Reporter, donc c'est un grand écart.
Alors, je ne suis pas journaliste pour Reporter, j'ai fait un podcast qui a été repris par Reporter en collaboration avec Reporter. Mais en fait, ça fait plus de 20 ans que je suis journaliste et 10 ans que je suis journaliste indépendante. Mais comme je le dis, même à TF1, je faisais déjà ces sujets-là. J'avais fait des sujets sur la surconsommation, sur l'agriculture industrielle dès 2004, quand j'étais journaliste. On n'était pas beaucoup à faire ça à TF1, je vois, sinon ça se saurait, mais on était quelques-uns. Et c'est quand même une rédaction de journaliste. Donc même si j'ai eu régulièrement des difficultés à passer mes sujets, la plupart ont quand même été diffusés, à part les deux derniers reportages qui n'ont pas été diffusés. C'est pour ça que je suis partie de cette rédaction.
Je me tourne vers Claire. L'atelier paysan, donc c'est l'héritage d'une certaine philosophie du travail de la terre.
Alors, philosophie du travail de la terre, je sais pas, mais c'est né il y a 15 ans, et c'est né face au constat que il y avait une disparition des savoir-faire autour des constructions et des réparations des machines agricoles. Et un constat qui était fait pour plusieurs raisons. Déjà, les machines agricoles sont de plus en plus complexes et numérisées. Enfin, c'est comme aujourd'hui nos voitures. Hein. Il y a 40 ans, on savait plus ou moins réparer nos voitures. Aujourd'hui, il y a tellement d'électronique qu'en fait, on ne peut plus le faire nous-mêmes. C'est des savoirs qui sont de moins en moins, voire plus du tout enseigné dans l'enseignement agricole, celui de la réparation, de la mécanique, etc. Et en fait, on parle souvent de la disparition des agriculteurs et des agricultrices, mais ce qu'on dit moins, c'est qu'avec la disparition de ces personnes-là, il y a une disparition des savoir-faire, et notamment celui de réparer et construire les machines. Donc voilà, c'est vraiment parti d'ici, et donc il y a eu tout un référencement de ce qu'on peut appeler, on va dire, les bidouilles paysannes de construction de techniques agricoles adaptées plutôt à une agriculture paysanne. Donc référencer tout ça et le mettre dans un pot commun. Le dire, voilà, en fait, il faut que ça soit des... on le met sous forme de plan et ça soit accessible gratuitement, n'importe où, n'importe comment, etc. Donc ça, c'est voilà, un peu tout l'esprit de l'open source, en fait. Mais l'idée était de ne pas... d'ancrer ça aussi dans une posture politique. Parce que tout à l'heure, on disait, pourquoi les alternatives n'ont pas été suffisantes à changer le système, etc. Pour moi, une des raisons, en plus que celle que Juliette a évoquée, une des raisons, c'est aussi de quelle manière ça a été apporté. Ces alternatives, elles ont beaucoup été accompagnées d'un discours élitiste, moraliste, en disant ça c'est la bonne chose à faire, et donc toi tu es le bon individu, toi qui mets des pesticides dans ton champ t'es le mauvais. En fait, si on réfléchit comme ça, il y a quelque chose de très identitaire là-dedans, et qui ne permet pas justement de faire des liens, de faire société et d'opérer un changement de masse, quoi. Et donc là, c'était très important pour nous de dire on veut pas rentrer dans le low-tech suprême. Voilà, nous on a fait les super outils magnifiques, nanana. Non, en fait, c'est vraiment faire cet outil-là rentre dans un projet politique. La machine agricole faite à l'atelier paysan, avec les plans en commun et tout, n'est pas une fin en soi, pas du tout. La fin, c'est la transformation radicale du monde agricole et alimentaire. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu ce besoin-là à l'atelier paysan, outre de mettre en plan des machines agricoles, de faire des formations au travail du métal et du bois, aussi d'inscrire ça dans un essai politique qui est reprendre la terre aux machines.
L'atelier paysan, c'est un lieu aussi.
Ouais, alors pendant très longtemps, il y a eu un site qui est un peu la maison mère qui se trouve à Renage, à côté de Grenoble. Et là, depuis 2 ans, on est dans une dynamique qu'on appelle une dynamique d'essaimage. Où voilà, le fait de dire, ben, c'est la coopérative, là, elle a beaucoup grossi. On la connaît, hein, les histoires des coopératives qui grandissent très très vite. Et on veut absolument éviter ça. Et donc là, ça fait 2 ans qu'on est dans une logique d'accompagnement de collectifs autonomes qui sont complètement divers. Et c'est assez fabuleux là-dessus pour dire, ben, voilà, vous voulez mettre en place sur votre territoire une ou plusieurs activités de l'atelier paysan. Nous, on est là pour vous transmettre ce qu'on a appris pendant 15 ans et vous accompagner et faire vivre un réseau à l'échelle nationale.
Juliette Duquesne, vous, en tant que journaliste, autrice, vous avez abordé tous les aspects de l'agriculture en France, hein, qu'elle soit conventionnelle ou alternative. Donc vous avez une grande connaissance. Est-ce que selon vous, il y a justement cette possibilité de jonction entre ces deux mondes ? Et pour cela, est-ce qu'il y a des propositions existantes qui sont à l'image d'alternatives, par exemple ?
Vous voulez dire, est-ce qu'il y a un modèle agricole qui existe ?
Et qui permette justement de confronter, d'amener la réflexion entre ces deux types d'agriculture, la conventionnelle et alternative.
Oui, moi, il y a un modèle agricole qui existe, mais qui demande quand même des changements assez radicaux dans la façon de pratiquer. On sait que ça met toujours plusieurs années pour passer d'un modèle conventionnel à un modèle d'agroécologie paysanne. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est marrant, je réactualisais mes données avec des chercheurs sur l'agroécologie dans le monde. C'est toujours difficile d'avoir des chiffres parce que dans beaucoup d'endroits, c'est pas certifié. C'est une agroécologie paysanne qui n'a pas de label. Et donc, c'est difficile d'avoir des chiffres. Ils me disaient que la plupart des chercheurs qui travaillent dans différents endroits, un peu partout dans le monde me disait qu'ils avaient gagné la bataille des idées. On sait aujourd'hui que l'agriculture, l'agroécologie peut nourrir la planète, mais par contre, que ça s'était encore plus durci de l'autre côté, et qu'ils n'étaient même pas très optimistes sur le court terme, en tout cas, parce qu'il y avait encore plus d'attaques contre cette agroécologie paysanne. Alors moi, quand je parle d'agroécologie paysanne, je parle d'un changement radical de modèle agricole, pas juste retirer les pesticides. Et c'est peut-être ça aussi où des fois il y a des confusions. C'est pas juste retirer les pesticides, c'est d'avoir un autre rapport au vivant où on va cultiver en faisant des cultures associées. Ça ne va pas être la même chose en Afrique dans les zones semi-arides que dans les Antilles, dans une zone tropicale. On ne va pas utiliser les mêmes techniques agricoles. Donc si la question est-ce qu'on a montré que c'était possible de faire autrement, la question est oui. Mais par contre, je partage aussi, et c'est beaucoup revenu aussi lors de mon enquête, ce qu'a dit Claire tout à l'heure sur le fait qu'on a essayé aussi d'opposer et qu'on a des fois voulu trop imposer des décisions par le haut. Et ça, je pense que ça vaut pour tous les sujets liés à l'écologie. Moi, je l'ai vu dans ma dernière enquête que la question de la dignité et de réancrer les sujets au sein d'un territoire et des cultures aussi d'un territoire, c'est essentiel. Je vais vous donner 3 exemples qui sont très différents, mais qui montrent cette importance-là. Je suis, par exemple, allée dans une ville à Losangoël, dans le nord de la France, où on vote extrême droite au niveau national et vert au niveau local. Et lui, il m'a dit qu'il a réussi. Le maire, l'ancien maire, c'est quand même lié de son implication, en tout cas au départ. Il a réussi à faire la bifurcation écologique. Aujourd'hui, il y a 20% de bio dans sa commune parce que le passé minier de la ville n'a pas été dénigré comme quelque chose justement d'anti-écologique, etc. Enfin, d'anti-écologique, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas mal vu d'un point de vue écologique. Mais qu'au contraire, les terrils ont été reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Et il me dit que c'est en se basant là-dessus où les habitants se sont sentus reconnus. Et c'est en se basant sur cette histoire-là qu'ils ont pu reconstruire l'identité. Enfin, l'identité, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, la bifurcation écologique de cette commune. Et ça, je l'ai vu aussi avec la Chambre d'agriculture alternative du Pays Basque, qui est une initiative très intéressante. Et ils m'ont dit qu'ils ont réussi aussi à construire l'agriculture, cette chambre d'agriculture, via le réseau de résistance qui existait déjà pour la langue basque, pour la culture régionale, et que c'est là-dessus qu'ils ont réussi à se baser. Et aujourd'hui, cette chambre d'agriculture, elle accompagne la moitié des paysans du Pays Basque. Donc c'est pas du tout. Donc c'est intéressant ce lien-là sur le lien entre le territoire, la culture, et que c'est pas. Alors ça, c'est Jean-François Caron, l'ancien maire de Losangoël, qui dit ça. Il dit faut pas laisser l'identité aux identitaires. Alors je sais qu'il y en a quand même pas du tout, même le mot identité, mais en tout cas, pas laisser les racines et les traditions d'une région à l'extrême droite, si on veut le dire aussi de cette façon-là.
Et de la propager au-delà de son territoire, oui. Ou de ses origines.
Mais oui, mais en tout cas, à chaque fois, de réancrer à une histoire. Et ça, moi, je suis allée jusqu'au Mexique, et le zapatisme, c'est la même chose. C'est aussi reconnaître les cultures indigènes, la dignité, le mot est beaucoup utilisé à chaque fois. Et d'ailleurs, ils disent que ce qui est appliqué là-bas ne sera pas applicable chez nous. À chaque fois, il faut le réancrer à une histoire et à un territoire, et pas l'imposer par le haut en parlant que d'émissions de gaz à effet de serre.
Tout à l'heure, on parlait de particularismes locaux. Ça, c'est une prise en compte que vous opérez, vous, l'atelier paysan, pour justement ramener un peu cette notion de paysannerie sur un territoire.
Ah bah de toute façon, l'agriculture paysanne est liée au particularisme local. Et de fait, du coup, vu que chaque agriculture est différente sur chaque territoire, les outils aussi, en fait, vont être adaptés. Ça, c'est évident, quoi. Enfin, typiquement, on a fait, là, pour faire le lien avec l'internationalisme, on a eu plusieurs demandes du mouvement des sans terre au Brésil, de paysans au Sénégal, au Canada, qui nous ont dit « Oh là là, mais venez, nous aussi, on veut faire des formations, nous aussi, on veut un atelier paysan. » On me disait « Mais en fait, non, c'est pas les mêmes outils. » Donc, ça, c'est évident. Et juste pour faire, par rapport à ce que disait Juliette, pour rajouter sur, par rapport à votre question, là, sur comment on fait du lien avec les gens qui font de l'agriculture conventionnelle et celles et ceux qui sont dans... on va les appeler la gauche paysanne, quoi. En tout cas, nous, côté atelier paysan, ce qu'on essaye de faire, c'est que aussi l'outil est un prétexte à la discussion politique. Et parler outil mécanique avec son voisin agriculteur conventionnel, en fait, c'est un super lien pour avoir des discussions politiques. Et justement, c'est sortir de cette posture-là de dire ça, c'est pas bien ce que tu fais. Ça, c'est... Non, en fait, on va faire ensemble. Toi, tu sais réparer un tracteur. Moi, je sais pas. Viens m'apprendre, en fait. Et partageons des savoir-faire, etc. Et donc, ça, c'est un super outil. Et un deuxième aussi que nous, on voit, qui revient souvent chez nous, c'est les révoltes. En fait, mais comme pour les gilets jaunes, en fait, il y a eu une mixité entre des gens de gauche, des gens qui se disaient apolitiques, des gens plus proches de la droite, voire de l'extrême droite. Et en fait, c'est sur ces espaces-là qui sont liés à un territoire, en fait, et qu'on peut pas le faire au niveau national. Et c'est forcément ancré dans un territoire où, en fait, on fait politique. On n'est pas d'accord, mais on discute, on débat, etc. Et ça, c'est politique, et ça, c'est faire lien. Et c'est là où, en fait, on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas dans nos cercles d'agriculture biologique, d'éco-socialité, j'en sais rien de tout ça, quoi. Et voilà, et ça on l'a vraiment vu, donc soit sur les mobilisations agricoles, ou aussi sur, là on a des camarades viticulteurs dans l'Aude où il y a eu des énormes feux cet été, des incendies, ça a été catastrophique. En fait, il y a une mobilisation, beaucoup de sécheresse, et il y a eu beaucoup de sinistrés. De viticulteurs et de viticultrices sinistrées à cause des grands feux, ils ont vu leur maison brûler, leur ferme, etc. Et là, en fait, il y a eu une mobilisation, mais une mobilisation en dehors de tout les identités, qu'elles soient agriculture paysanne, agriculture conventionnelle, etc. Et donc là, il y a une obligation de faire ensemble, et c'est hyper intéressant.
Juliette, justement, Claire citait cette période des Gilets jaunes où se sont rencontrées les divergences habituelles. Vous avez pu constater et vous intéresser sur cette période des Gilets jaunes ?
Alors, la période des Gilets jaunes, je n'ai pas enquêté directement sur cette thématique-là, mais c'est un sujet, ce côté en tout cas transversal où on peut avoir, c'est un sujet que moi je retrouve plus sur ma thématique de l'eau, parce que j'ai fait un bouquin sur l'eau et j'interviens régulièrement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans l'eau, je suis intervenue, il y avait des gens de la FNSEA dans la salle, des gens de différents syndicats agricoles, parce que ce n'est pas un endroit en plus où il y a les plus gros exploitants, donc il y avait des gens des différents syndicats. Le sujet de l'eau, je trouve, a aussi ce rôle-là de pouvoir, on peut échanger sur un territoire avec des gens qui ne sont pas du tout d'accord. Parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, quoi, en fait. À un moment, on est bien obligé de faire avec et d'être tous autour de la table. Alors, il peut y avoir des grosses tensions, on voit bien avec la question des bassines, mais c'est un sujet qui rassemble au niveau des territoires. Et c'est ça que je trouve intéressant, notamment au travers là, les citoyens, c'est qu'on peut avoir des citoyens de tous bords politiques qui peuvent, alors bien sûr, c'est pas forcément facile le dialogue, mais qui peuvent échanger sur ce sujet-là. Et là, c'est pareil, ça, on va pas gérer de la même façon l'eau dans les Pyrénées-Orientales qu'en Alsace ou qu'à Paris. Donc ce sujet-là, cette thématique-là, on peut la retrouver. Et c'est aussi un sujet qu'on peut retrouver sur la thématique de la ruralité. Cette opposition qui existe hein, quand même dans le monde actuel entre la ville et la campagne, en tout cas qui est parfois renforcée. Dans le terme de la ruralité, on peut aussi avoir une mixité, on va dire, de personnes différentes qui peuvent, avec qui on peut échanger.
Vous avez rédigé récemment un ouvrage, alors je cherche le titre, c'est « Autonome ».
Et solidaire pour le vivant, s'organiser sans l'autorité de l'État.
Alors justement, est-ce que ça fait partie aussi d'une résistance, cette notion par rapport aux injonctions de l'État et de l'Europe?
Oui, c'était très intéressant pour moi de faire cette enquête. Après avoir fait 20 ans de journalisme, j'ai moi aussi cru hein, pendant un temps que l'État pouvait contrer les méfaits du capitalisme. À force de voir que toutes les lois étaient vidées de leur contenu, je me suis dit que quand même, je ne suis pas la seule, qu'il y avait quelques petits problèmes et que l'État avait du mal à y arriver. Et à force de faire des enquêtes où je fais l'état des lieux et puis après, on voit les solutions. Je pense notamment à mon livre sur les excès de la finance où François Hollande avait été élu sur Mon ennemi, c'est la finance. Et en 2013, il y a une loi sur la séparation bancaire qui a été totalement vidée de son contenu et qui n'a rien, qui n'a pas du tout empêché nos dépôts de servir de caution pour spéculer. Donc voilà, enfin, il y a plein d'exemples comme ça. On pourrait en donner à l'envi des exemples comme ça. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressée de creuser ce sujet qui n'est pas simple parce qu'il est, on va dire, assez subtil. Le sujet, c'était vraiment de voir que les gens en tout cas les personnes engagées qui avaient compris ce lien entre capitalisme et État permettaient de construire des solutions qui sont particulièrement robustes et pérennes dans le temps. Là, je passe notamment aux zapatistes au Mexique. Donc, je suis allée voir les zapatistes qui est un soulèvement qui a eu lieu en 1994. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est la construction de l'autonomie chez les zapatistes. Et il me semble qu'ils vont très... Pour moi, c'est un des mouvements qui va le plus loin dans la construction de l'autonomie aujourd'hui dans le monde. Moi, j'étais assez impressionnée hein, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'obstacles. Ils font face à beaucoup d'obstacles pour y arriver. Hein. Ils sont autonomes de façon alimentaire. Ils ont leur propre système de justice, d'éducation, politique. Pas tout expliquer là, mais en tout cas, ils sont... Et moi, ce qui m'a aussi interpellée, c'est quand j'étais là-bas, tous les gens que j'ai interrogés, que ce soit les zapatistes ou les sympathisants zapatistes, tout le monde fait ce lien entre État et capitalisme, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Je pense que c'est bien sûr qu'ils ont un État qui est beaucoup moins protecteur au Mexique, il y a beaucoup plus de liens avec les narcotrafiquants, avec les paramilitaires et autres, mais je pense que c'est pas la seule raison. C'est aussi parce que le mouvement zapatiste est un mouvement qui lutte contre la colonisation et l'État-nation tel qu'il est aujourd'hui est né de la colonisation. Et ça, je l'ai retrouvé aussi dans des interviews que j'ai fait avec un chercheur au Sénégal. Et je pense qu'on oublie, en fait, que l'État-nation, moi, quand je dis le mot État, je parle de l'État-nation tel qu'il l'est aujourd'hui, est né de la colonisation. Et peut-être qu'en France, on a plus de mal à remettre en cause cette forme d'organisation. Alors, je prends des précautions quand je parle de ça. Je ne vais pas dire que demain, en France, on va faire complètement sans l'État. Et tous les collectifs que j'ai rencontrés en France, personne ne fait sans l'État. Mais de comprendre ces mécanismes-là, je pense que ça nous permet d'ouvrir nos imaginaires et d'essayer de nous organiser autrement. Et dans l'ouvrage, j'ai aimé faire ces liens... d'essayer de relier ces collectifs, même si sont différents et chacun est différent, et de les relier aussi à une histoire et à l'histoire de l'anarchisme. Je trouve que ça permet de nous ancrer et aussi de structurer ces mouvements.
Tout à l'heure, Claire, vous parliez de paysans de gauche. C'est une étiquette ou une réalité ?
C'est-à-dire une réalité. Est-ce qu'il y a vraiment des paysans de gauche ?
Oui. Il y en a certainement, mais est-ce que c'est uniquement de gauche ?
Ah ben, il y a des paysans de gauche, il y a des paysans de droite. Je vois pas où est-ce que vous l'en.
Non, c'était pour reprendre le propos que vous aviez dit tout à l'heure.
Bah, quand je dis paysans de gauche, ça représente plus ou moins la Confédération paysanne, quoi.
Oui.
Mais vraiment, l'électorat agricole est à l'image de l'électorat en France, quoi. Et il n'est pas plus à l'extrême droite que ce qu'on dit par rapport à l'ensemble des Français et des Françaises. Il y a l'extrême droite qui monte dans l'électorat agricole, mais de la même manière que ça monte dans l'électorat français. Mais oui, il y a toujours eu des paysans de gauche, comme il y a toujours eu des paysans d'extrême droite. Enfin voilà, on le voit bien, le régime de Vichy, tout ce que ça a produit.
Et je reviens un peu sur ce slogan hein, qui est sur le site de l'Atelier Paysan, se réapproprier la question de l'outil de production des fermes. Ouais. Qu'est-ce que ça vous donne qu'est-ce que ça pourrait signifier, selon vous? Ce slogan
C'est la question de la réappropriation, en fait. C'est un peu dans le titre de notre bouquin, c'est « Reprendre la terre aux machines ». Et en fait, qu'aujourd'hui, il y a toute une partie du bouquin en fait, où on retrace l'industrialisation de l'agriculture qui s'est faite par ce qu'on appelle le complexe agro-industriel. En fait, le complexe agro-industriel, ça regroupe vraiment toutes les industries de l'amont, de l'aval, de la distribution, le syndicalisme, le syndicat majoritaire, la FNSEA, et aussi l'État, bien évidemment. Et tout ça, en fait, ça marche main dans la main, quoi. Et on n'a pas juste un ennemi qui est la FNSEA. Non, la FNSEA travaille avec l'État, avec l'agro-business, avec la grande distribution. Voilà, tout ça, c'est un ensemble. Et en fait, ils ont pris l'agriculture aux paysans et aux paysannes. Aujourd'hui, en fait, il est presque même difficile de dire concrètement que un agriculteur est propriétaire de ses outils de production. Enfin, en fait, vu la somme d'emprunt qu'il a à la banque, en fait, ça appartient beaucoup plus à la banque qu'à lui. C'est pas lui qui décide les prix de ses productions, c'est l'agro-industrie. En fait, il ne vit pas sans les aides de l'État. Donc, au final, en fait, c'est ça. Et se dire, en fait, il faut qu'on retrouve, en fait, qu'on se réapproprie nos moyens d'existence. Et c'est un peu ce qu'on va discuter là avec Juliette aussi cet après-midi, de la question de l'autonomie. C'est pas de dire, en fait, je suis tout seul ou toute seule dans mon coin et voilà, je suis autosuffisant. Non, c'est pas ça. C'est de dire comment en fait on peut lutter contre le capitalisme si c'est lui qui nous permet de survivre. En fait, il va falloir qu'on se réapproprie les moyens de subsistance. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il faut lister de quoi je suis dépendante, en fait. Et aujourd'hui, un agriculteur, il est dépendant de la banque, de l'agro-industrie, de la PAC, de la grande distribution, et de dire, OK, donc ça, en fait, il va falloir se détacher de ces liens-là de dépendance. Et ça, on ne peut pas y arriver tout seul. Il faut qu'on le fasse collectivement. Et nous, c'est ce qu'on essaye d'apporter avec cette dimension de commun, quoi. Donc c'est toute cette... cette culture-là de la socialisation de l'agriculture, la socialisation de l'alimentation, et on n'y arrivera pas tout seul, quoi.
Justement, Juliette, vous citiez le Mexique avec les zapatistes. Est-ce qu'ils ont aussi établi un système bancaire moins contraignant ?
Alors, le système bancaire, j'avoue que je n'ai pas enquêté sur la partie... je sais qu'il y a moins d'échanges d'argent dans le quotidien parce que, du coup, le but, comme dans les collectifs où je suis allée en France, c'est quand même de moins marchandiser son quotidien. Alors, j'avoue qu'il y a bien sûr des échanges d'argent. Hein. Par exemple, il y a le café Zapatiste qui aide beaucoup, qu'on peut acheter en France et qui va aider les coopératives, qui va aider le Vauban Chiapas. Donc, je ne sais pas. Par contre, cette question purement bancaire, je pense qu'il dépend quand même du... Il y a quand même des échanges d'argent, hein, mais il y a moins... en fait, le but, c'est d'avoir moins d'échanges d'argent et d'avoir moins besoin d'argent au quotidien. Et ça, c'est sûr qu'ils l'ont. Moi, dans tous les endroits où je suis allée, et ça a été confirmé par les chercheurs et les spécialistes, tous m'ont confirmé qu'ils sont quand même autonomes de façon alimentaire, ce qui est quand même très, très important, parce que les zapatistes, c'est récupérer la terre, mais c'est la terre-mère. C'est aussi cultiver autrement cette terre-mère, la cultiver en agroécologie paysanne. Et c'est ça l'essentiel, parce que moi, l'objectif de mon ouvrage est de mes différentes enquêtes et de cet ouvrage, c'était autonome et solidaire pour le vivant, mais c'était de voir l'intérêt, comment on peut s'organiser pour prendre soin du vivant. Et moi, du coup, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que gagner en autonomie ensemble autour des gestes de subsistance, et souvent de le faire de façon très démocratique, et pas démocratique vote, mais démocratique en mettant des systèmes de décision où on va prendre du temps pour décider, c'est comme ça qu'on arrivait à prendre soin du vivant. Et c'est ça qui, moi, m'a intéressé à l'heure où on parle beaucoup de dictature écologique, etc. C'est cet aspect-là.
Voilà, on va abréger, hein, parce que vous avez rendez-vous dans 20 minutes.
Oui, on ne va pas tarder.
J'avais juste une petite question. Là, il y a une levée de bouclier de la part de la FNSEA et de la coordination rurale sur la nomination d'une fonctionnaire.
Hein, Anne Lestrade, ouais. Qu'est-ce voilà, que c'est, de l'eau, là.
Contre sa nomination, justement, c'est ça, sur c'est la biodiversité.
Oui, c'est ça, c'est Anne Lestrade.
Oui.
C'est quoi ?
Qu'est-ce que ça vous provoque, non ?
Alors moi, je connais Anne Lestrade parce que je l'ai interrogée sur l'eau et je sais que c'est quelqu'un de très intéressant. Elle a fait partie des personnes qui ont rendu publique la gestion de l'eau à Paris et ça a été un gros combat. Ça a été très symbolique parce que le moment où la gestion de l'eau est redevenue publique à Paris, c'était quelque chose parce qu'en France, on est les champions du monde de la gestion privée de l'eau avec Veolia et Suez. Donc je sais que ça a été un très gros combat pour Anne Lestrade d'avoir rendu cette gestion de l'eau publique. Donc peut-être que c'est pour ça
Certaine rancœur.
Je ne pensais pas les mêmes acteurs, mais du coup, pense que du coup, elle est peut-être que ça c'est quelqu'un qui est en tout cas engagé sur les sujets liés à l'écologie. Après, moi, j'ai pas suivi, j'avoue, les derniers rebondissements. C'est quelqu'un que je connais parce que je l'ai interrogé et que c'est quelqu'un d'engagé sur ces sujets-là et en tout cas qui a permis de passer un cap sur la gestion publique de l'eau. Et la gestion publique de l'eau permet aussi de plus protéger les captages d'eau et autour des captages d'eau de mettre en place des systèmes de protection avec de l'agriculture biologique ou des prairies pour ne pas polluer avec les pesticides à l'endroit où on a des captages d'eau en France.
Juliette Duquesne et Claire Rousseau, je vous remercie tous deux. Je mettrai en lien sur la page de l'émission, en podcast, vos liens, Atelier Paysan. Juliette Duquesne, vous avez une page particulière vous-même ?
Oui, j'ai deux pages, surtout la page carnet d'alerte, carnet au pluriel d'alerte, et il y a tous les infos. Et mon dernier podcast, justement, sur le dernier livre.
Bonne soirée à vous.
Merci.
Au revoir.
When I'm in the club, yeah, I'm bumping that. When I'm at the house, yeah, I'm bumping that. 365 party girl, bumping that. Should we do a little key? Should we have a little line? Or go real wild when I'm bumping that. Meet me in the bathroom if you're bumping that. 365 party girl, bumping that. 365 party girl, bumping that.
Gonna too hot when I sweat, just lick me. Touch and squeeze, and the baseline hits me. Are you gonna ride me harder than a boogie and beat match beat? Yeah, I'm loving that. Can't see straight, yeah, I love it when the pill hits. Back of the booth, bitch, guess this VIP party don't start till I reach, come find me.
Party girl, party girl. Push my hair back, look hot when I'm bumping that. No, I really don't stop when I'm bumping that. Gonna jump when it drops when I'm bumping that. Dial 999, it's a good time. Who the fuck are you? I'm a brat when I'm bumping that. No, I wanna hear my track, are you bumping that? Till the windows crack, I'll be bumping that. No, I'll never go home, don't sleep, don't. 365
party girl. 365 party girl. 365 party girl. 365 party girl. 365 party girl. 365 party girl. 365 party girl.
365 girl.